France Inter, le 18-20.
Vous venez de rentrer chez vous, comme il a fait froid, les enfants sont énervés de ne pas avoir assez joué dehors. Et d'ailleurs, l'un d'eux a encore perdu un gant. Vous avez passé une mauvaise journée au boulot, forcément. La tentation de crier après celui qui refuse de faire ses devoirs est tellement grande que vous allez dans la pièce à côté respirer par le ventre, voire fumer une cigarette, ce qui n'est pas recommandé. Ça commence mal cette soirée, il y en a plein d'autres comme ça. Parce que vous le savez, si vous avez des enfants, la parentalité c'est super, les enfants c'est formidable, mais parfois on se plante, on crie quand il ne faut pas, on dit des mots qu'on ne devrait pas dire, on sait qu'il faut encourager ses enfants, bien sûr, sur le papier, c'est ça qui est marqué, sauf que quand il revient avec un collier de mauvaises notes, qu'est-ce qu'on dit? Comment on sait si on se trompe? Est-ce que c'est grave quand on se trompe dans l'éducation des enfants? Est-ce qu'on est meilleur parent que nos parents l'étaient avant nous? Pour mieux comprendre tout ça, pourquoi pas des béquilles, pourquoi pas des cours, pourquoi pas des stages, des séminaires, pour savoir quelles sont les vraies clés, parce qu'au fond, parents, ça s'apprend, ça se consolide, ça va pas forcément de soi. Il doit y avoir aussi une sorte de remise à niveau à les savoir. Vous êtes nombreux à le savoir, à l'accepter et à le faire. Alors est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que ça vous fait soupirer? Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que ça vous intéresse? C'est à vous de jouer.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Allez Pascal, c'est vous qui commencez. Bonsoir à vous et soyez la bienvenue.
Bonsoir. Merci de me prendre dans votre émission. Oui.
Allez-y, Pascal, on est toutes oui.
Écoutez, moi, quand j'étais enceinte, j'ai commencé à lire des livres pour savoir comment faire, parce que j'avais pas beaucoup d'idées. Et donc, les deux livres qui ont été mes bibles, c'est Tout se joue avant 6 ans de Dodson et Aimer sans tout permettre, pareil, du même auteur. Et c'est des livres qui m'ont vraiment guidée, que j'ai relu à chaque fois, à chaque enfant, j'en ai eu 4. Et ils m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et d'autre part, j'entendais tout à l'heure que vous disiez qu'on rentrait du travail, qu'on était fatigué. Au bout de 3 mois de travail, j'ai arrêté de travailler parce que j'ai senti que je ne serais plus à la hauteur si je travaillais. Et donc je suis devenue assistante maternelle pour rester avec mes enfants. Et ça m'a permis d'être à leur écoute, d'être toujours là quand ils avaient envie de parler, de pouvoir être suffisamment zen pour arriver à être zen avec eux.
Alors voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas forcément le choix d'arrêter de travailler. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, pardon de vous le dire comme ça, Pascal, mais visiblement, on n'apprend pas tant que ça d'un enfant à l'autre, en fait, ou pas?
D'un enfant à l'autre, non, parce qu'ils sont différents. Parce que le premier, il est tout seul. Après, le deuxième, il faut faire face à la jalousie.
Ouais. À la jalousie du premier.
Le troisième, il faut faire face au manque de temps. Et le quatrième, face à l'épuisement personnel, parce qu'on n'en peut plus. Donc effectivement, oui, c'est très très différent d'un enfant à l'autre, mais quand même, il y a des bases qui restent, les mêmes. L'écoute, être toujours à l'écoute. J'entendais tout à l'heure parler d'adolescence. Et souvent, l'adolescence, elle est difficile. Elle peut être difficile, mais ce que dit Dodson, c'est que la première adolescence se joue à l'âge de 2 ans. Donc tout le comportement qu'on aura à l'âge de 2 ans, le moment où les enfants disent toujours non, 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 ce moment-là est décisif pour l'adolescence, à 14 ans, 15 ans.
Peut-être que vous êtes en train de terroriser des gens qui nous écoutent, qui ont des enfants de 2 ans et qui voient arriver, qui pensent qu'ils vont les vendre là parce que l'adolescence sera très compliquée.
Mais... Non, en fait, il faut éviter de dire non tout le temps. En fait, c'est rien l'adolescence. Il faut juste éviter de... Enfin, la première adolescence à 2 ans, il faut juste éviter de dire non tout le temps. Il faut laisser dire, en plus j'étais assistante maternelle, donc j'ai eu l'expérience de plusieurs enfants. Les enfants à cet âge-là, ils disent non juste pour s'amuser.
Ouais.
Et donc si on n'est pas sur la réaction, si on n'est pas réactif à ce moment-là, bah, ça se passe bien.
Ah voilà, bah, ils aiment bien tester, c'est le moins qu'on puisse dire. Pascal, merci beaucoup pour cette entrée en matière et bon courage avec vos 4 enfants. Allez-y pour vous en occuper maintenant que vous nous avez eu au téléphone. Merci vraiment 1000 fois pour ce démarrage, pour vous répondre et pour discuter avec nous jusqu'à 20h ce soir. Sophie Benkemoun est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en médecine, vous avez fondé l'atelier des parents, vous nous raconterez comment ça marche. Béatrice Kamener est là aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste des questions d'éducation et de parentalité. Vous avez écrit « Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent ». C'est édité chez Belin et on vous souhaite d'avoir que votre bouquin ait une vie aussi longue que celle des Dodson et d'autres. Je voudrais qu'on commence là-dessus, Sophie Benkemoun. Il y a des bouquins générationnels pour les parents, en fait. Il y a eu le fameux « J'élève mon enfant » de nos mères, à nous, qui a traîné pendant très très longtemps quand même. Il y a les Dodson aujourd'hui, j'imagine qu'il y en a d'autres. C'est important d'avoir cette Bible au fond, en fait. Peut-être que ça rassure finalement, non ?
Alors, c'est important, oui, si on en a besoin. Et puis, j'ai envie de dire, ça dépend ce qu'on en fait derrière. Ça ne doit pas devenir une dictature. Il faut aussi que le parent garde sa spontanéité de parent. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir trouver des clés de communication qui nous correspondent.
Mais ils sont bons, ceux-là, de bouquins ?
Alors, Dobson est déjà un petit peu ancien.
D'accord.
Parce que c'était avant qu'on ait accès aux neurosciences, qui nous
D'accord.
explique
mmh.
un petit peu l'impact de la relation sur le développement du cerveau. Et nous, on travaille des Québécois. Et nous, à la place de dire « tout se joue avant 6 ans », on dit « tout se joue avant la mort ».
D'accord, parce que c'est vachement plus rassurant.
Eh ben oui, parce que notre cerveau peut toujours apprendre d'autres manières de communiquer. Et c'est avant tout une question de choix. Et c'est vraiment des clés de communication dont les parents, des fois, ont besoin. Après, chacun garde sa culture, ses valeurs qu'il veut communiquer à ses enfants, selon sa croyance, sa religion, etc. On touche pas à ça, mais on est démunis face aux clés de communication qui, en plus de ça, ne sont pas forcément adaptées à la société d'aujourd'hui.
Mais vous, dans l'atelier des parents, vous donnez de la lecture ou pas,
ouais. Oui, alors nos lectures de base, c'est un livre de Monsieur Guinotte, qui entre parents et enfants, ou entre parents et adolescents, pour les parents d'adolescents, et le livre de Nicole Prieur, Grandir avec ses enfants. Voilà, ça c'est vraiment nos bibles à nous. Et voilà, ce qu'on aime bien, c'est que c'est vraiment des livres qui vont faire réfléchir à notre posture de parent, notamment je pense au livre de Nicole Prieur, et les livres de Raïm Guinotte vont donner des clés aux parents pour essayer de communiquer et faire passer les messages qu'ils ont envie de faire passer.
Mais
et
c'est...
arrêter effectivement de... Ouais, typiquement, cette dame disait on va arrêter de dire non, ce qui peut faire peur quand on entend ça, c'est ah oui, alors il n'y aura pas de cadre, c'est de laxisme, non. Mais à la place de dire non, on peut dire oui dès que, oui après, oui quand. Et l'enfant, il n'entend pas la même chose, vous voyez. C'est juste de la clé de communication, en fait.
Béatrice Kamener, moi, ce qui m'a fait rire dans le témoignage de Pascal, mais qui était intéressant, effectivement, c'est qu'elle raconte avec beaucoup d'humour que d'un enfant à l'autre, c'est tellement différent qu'on recommence à zéro, en quelque sorte. Hein. Alors, pas tout à fait, mais enfin presque.
Oui, en même temps, c'est ce qu'il y a d'intéressant, parce que je pense que si on devait appliquer des modes d'emploi et un enfant, ce serait un ordinateur, ce serait pas une personne. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est de se dire que, le métier de parent, non, ça s'apprend pas forcément dans les livres, parce que c'est pas un mode d'emploi, en fait.
Vous venez d'employer le mot de métier, c'est un métier.
On pourra rebondir sur cette expression qui est très très employée, mais en tout cas, c'est une tâche complexe dans laquelle il faut, il y a plein de compétences à mettre en place, à mettre en œuvre, et surtout, il faut bricoler. Et ça, je pense que c'est ce qu'on voit dès qu'on a plusieurs enfants, s'adapter, inventer, bricoler, et accepter de pas toujours faire exactement ce qui est écrit dans le mode d'emploi.
Bonsoir Yveline.
Oula.
Bonsoir Yveline. Allez-y.
Attendez,
mettez bien votre téléphone, ne mettez pas sur haut-parleur, sinon on vous entend pas, et allez-y.
Oui, parce qu'en fait, c'est pour pas vous louper ce que je suis en train de faire, d'autres trucs comme ça.
Oui, j'imagine.
Alors, merci de prendre ma question. Alors moi, je voulais surtout réagir parce que j'ai une petite de 2 ans et demi qui est adorable, et on a été un groupe de copines à tout accoucher en même temps, là, presque, et très vite est apparue sur les réseaux sociaux, elle partageait des espèces de conférences sur l'éducation positive, tout ça, donc je m'y suis intéressée, et très rapidement, ça a commencé à m'angoisser, dans le sens où c'était très bien tout ce qu'il disait, mais moi, déjà, ça me parlait pas trop, et quand j'essayais d'appliquer ce qui était préconisé, ça fonctionnait tout simplement pas. Donc j'ai commencé à culpabiliser.
Mais genre quoi, Yveline, donnez-nous un exemple.
Éviter de crier sur ses enfants, retourner la question pour éviter de crier. Alors quand on est fatigué et que l'enfant n'a juste pas envie, quoi. Tout à l'heure, on parlait de leur période du non. Face à un non, au bout d'un moment, on a beau retourner la question de façon à ce qu'elle soit acceptée positivement par l'enfant, au bout du quatrième non, la punition arrive vite. Donc, j'ai commencé à enlever tout ça des réseaux sociaux et je me suis dit, ok, je suis pas parfaite, mais est-ce que c'est pas plus mal finalement? Est-ce que je dois pas faire comme j'ai envie de faire, emmener ma fille dans un bar, la laisser dormir dans un coin parce que elle dit rien, elle est bien, elle est avec nous et nous on peut continuer à être.
Elle est tranquille, elle fume ses clopes dans son bar.
Mais voilà, sans avoir des regards en se demandant c'est pas sa place ici, mais en quoi c'est pas sa place là, je connais peut-être le barman mieux que vous, donc c'est voilà, c'était est-ce que c'est cette besoin de la parentalité positive et le besoin d'apprendre, donc à prendre les parents, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais est-ce qu'on est obligé de respecter toutes ces règles, de suivre cette mode et pas justement faire juste comme on a envie de faire à partir du moment où l'enfant est bien, quoi.
C'était totalement clair, Yveline, absolument, merci beaucoup, et ça rejoint ce que disait Béatrice Caménère à l'instant. Vous disiez nous les parents on bricole, c'est aussi ce que dit Yveline, on bricole et il y a pas de mal à bricoler, quoi, en fou.
Je pense même que c'est l'essence même du métier de parent de devoir bricoler. Alors c'est vrai que ce dont témoigne Yveline, c'est vrai qu'aujourd'hui la parentalité positive c'est quelque chose qu'on décline à toutes les sauces, il y a 50 bouquins dessus, il y a des ateliers, il y a des cahiers.
Dans le vôtre, donc.
Ah non, pas du tout. Enfin, pas du tout. J'ai rien contre, mais non, mon livre est pas forcément affiché là-dessus. Et voilà, il y a cette espèce d'effet de mode qu'on peut discuter aussi, parce que on peut en tirer des principes trop hâtifs où on pourrait dire ça marche ou ça marche pas, et quand ça marche pas, on a l'impression d'un échec.
Sophie Benkemoun, il y a une chose importante dans ce qu'a dit Yveline. Elle a dit je ne suis pas parfaite. Et d'ailleurs, j'imagine que sa fille n'est pas parfaite non plus. Enfin, je veux dire, il y a aussi ces deux choses-là, j'imagine, à accepter en même temps. Oui. Ma fille n'est pas extraordinaire, ou mon fils non plus, et moi non plus.
Oui, et il ne s'agit pas d'être parfait. Alors ça, c'est le problème, effectivement, de tout ce qui touche à la parentalité positive aujourd'hui, et de ce qui est véhiculé par certains livres, etc., qui sont peut-être mal compris parfois par les parents. C'est qu'il ne s'agit pas d'être parfait. Et il s'agit, encore une fois, d'apprendre à communiquer et d'avoir quand même un petit peu les règles du jeu, c'est-à-dire de se rendre compte que simplement en communiquant, on peut faire quand même du mal à l'estime de soi de ce petit bonhomme qui est en face. On peut aussi ça impacte le développement de son cerveau, donc du futur adulte en devenir. Bricoler, c'est bien, mais le problème, c'est qu'en bricolant, on peut aussi faire du mal. Il y a des parents qui sont très démunis, qui savent pas, et qui en bricolant, on peut vraiment abîmer des enfants. Et par contre, je reprends l'exemple d'Yveline, effectivement, essayer de retourner la question, c'est typiquement, on fait pas ça avec un enfant de 2 ans. Il a encore pas le cerveau pour comprendre ça. C'est là où il y a des problèmes, justement, avec ça. Alors, oui, il y a un effet de mode. Nous, on travaille avec les livres de Guinot qui sont pas sortis hier. C'est des livres qui ont plus de 30 ans. À l'époque, il parlait, lui, de caring communication. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancien. L'effet de mode, certains auteurs se sont saisis de ça, et quand c'est mal compris, je comprends sa posture d'avoir au bout d'un moment dit ça m'angoisse et je fais autre chose.
Il y a une chose dans ce que dit Yveline aussi, et ça va revenir, parce que je vois passer des questions autour de ces thèmes-là. Il y a l'idée de crier. Évidemment qu'on lit partout qu'il faut pas crier, qu'il faut pas crier en soi.
Ça dépend comment on crie.
Voilà. Et en même temps, quand on crie une fois, parce que on est au bout de l'exaspération, on n'a pas besoin d'aller se mortifier derrière,
absolument pas. On fait du mieux qu'on peut. En tant que parent, il y a des jours où on a la patience pour tout ça, des jours où on l'a un petit peu moins. C'est pas forcément de crier. Nous, par exemple, typiquement pour crier, on peut crier en exprimant qu'on n'est pas content. On peut crier en disant ça me met en colère de voir ce qui se passe ici. Il n'y a pas de problème à dire ça. Par contre, quand on attend trop parce qu'on se dit bon, il faut que je fasse de l'écoute, etc., et que la colère elle monte d'un coup parce qu'on n'a pas exprimé avant ce qu'on ressentait, là, je vais vous dire que c'est pas ça me met en colère qui sort de ma bouche. C'est là qu'on sort des mots ou qu'on fait des gestes qu'on risque de regretter.
Est-ce qu'il y a une vraie différence entre ça me met en colère ce qui est en train de se passer et tu me mets en colère?
Oui, parce que nous, ce qu'on prône vraiment, et ça c'est M. Guinot qui le prônait, c'est de différencier la personne et son comportement. C'est pas toi. Toi, ta valeur humaine, elle reste valable 24 heures sur 24. Par contre, ce que tu as fait ne me convient pas. Et on va parler du comportement. Ça, c'est très très important. C'est fondamental.
Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
On vous écoute, Laurence, vous êtes un peu sur le même thème, allez-y.
Oui, tout à fait. Moi, j'avais envie de témoigner que j'ai des enfants qui ont maintenant 18 ans et bientôt 15. Quand j'ai eu mon aîné, j'étais complètement dépassée. Je sentais bien à l'intérieur que les gestes et les paroles qui me venaient n'étaient pas du tout ce que j'avais envie de dire, mais que c'était vraiment les phrases que j'avais entendues moi, petite, et que je donnais des fessées, que je hurlais jusqu'à ce que je me dise « mais c'est pas possible, comment est-ce que tu peux dire des horreurs pareilles à tes enfants ?» Et que ça faisait rien, hein. Ça c'est fini, mon fils à 3 ou 4 ans m'a dit même pas mal. Et là, je me suis dit, mais faut que tu fasses autre chose, c'est pas possible. J'ai eu la chance de rencontrer des groupes de parents, plusieurs personnes. Je me suis même formée, j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle Fignosa, de travailler avec elle. Les ateliers aussi de Faber et Maslisch, M. Guinot, dont parlait Sophie Benkemoun. Et il me semble essentiel que quand on n'y arrive pas en tant que parent, qu'on puisse trouver des outils de communication pour pouvoir apprendre à faire autrement. Parce que vraiment, la vie avec nos enfants, une fois qu'on arrive à mettre de côté les fessées, les cris, etc., c'est tellement doux que vraiment ça vaut le coup de faire ce chemin-là.
Et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que vous avez appris, vous, Laurence, parce que vous sentiez que vous n'étiez pas sur le bon chemin et que vous aviez eu besoin d'apprendre. Mais oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait complètement différemment avec votre deuxième enfant qui aujourd'hui a 15 ans ou pas?
Oui, complètement. Je dirais que je lui ai échappé deux petites fessées. Deux tapes. Une tape sur une couche un jour où elle avait tourné elle m'avait agacée avec son... Et en fait, elle m'avait agacée, mais c'est même pas elle qui m'avait agacée. On était en train de s'engueuler avec son papa. Mm-hmm. Et c'est elle qui a appris parce que c'est moins dangereux que je m'en prenne à elle qu'à son mari, mm-hmm. qu'à mon mari. Mm-hmm. Et puis une autre fois parce qu'elle avait touché la gazinière et que ça avait fait fondre un bol en plastique qui était sur la plaque de gaz, mais sur la plaque électrique. Et là, je me suis dit, mais Laurence, tu veux pas qu'elle tourne ce bouton? Elle n'a pas les capacités intellectuelles de le faire aujourd'hui. Tu enlèves le bouton. Et mm-hmm. puis voilà, parce que sur le truc de gaz, il y a une sécurité, mais pas sur l'électricité. Mm-hmm. Et tant que je sais que je ne peux pas la surveiller à 100%, parce qu'il faut tout le temps être derrière un enfant de 2 ans, c'est de ma responsabilité, c'est pas de sa responsabilité. C'est à moi de lui enseigner. Et un enfant, pour qu'il apprenne, il a besoin qu'on répète les choses, mmh. qu'on lui redise que les boutons, ça se tourne pas, etc. On a besoin de leur expliquer, de leur redonner les consignes plusieurs fois.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Laurence. Béatrice Kemener, dans ce que dit Laurence, on reviendra sur son apprentissage dans une seconde. Il y a, j'ai fait au début ce que j'avais entendu et surtout ce que ma mère faisait, en fait. En gros, forcément, au début, la tentation de chacun, c'est de faire comme on a été élevé, d'élever comme on a été élevé, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, toujours.
Bah, en tout cas, ce dont témoigne Laurence, c'est vraiment quelque chose qui est une mutation à l'heure actuelle, où notre société a envie d'inventer des nouveaux rapports avec les enfants, et donc on veut faire autrement que nos parents, on veut être dans des rapports qui soient plus respectueux de l'enfant, où on le considère comme une personne à part entière, où on va vers les droits de l'enfant, et tout ça, bah, ça prend beaucoup de temps, ça a déjà été amorcé il y a quelques décennies, mais là on continue. Et donc, il faut tout réinventer. Et c'est pas facile de réinventer, c'est pas facile de sortir des schémas, c'est pas facile de repenser de nouvelles manières. Et voilà, et c'est magnifique de voir que les parents d'aujourd'hui sont en train d'y arriver quelque part, puisque c'est ça que montre Laurence.
Les pères, les mères et les pères aussi. Je suis contente d'avoir un père. Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir.
Et allez-y, on vous écoute.
Alors, je suis effectivement avant tout un papa, puisque j'ai 4 grandes filles et aujourd'hui 2 petits-enfants. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est l'expérience qu'on est en train de mener dans le département de l'Ain avec un programme qui s'appelle « Ces années incroyables », qui vient des États-Unis, qui a été mis au point par Caroline Webster-Stratton et qui est un programme d'entraînement aux habiletés parentales. Donc, c'est un programme qu'on a développé sur le département de l'Ain avec le conseil départemental et la caisse d'allocation familiale, qui était soutenu aussi par des fondations. Et aujourd'hui, on accompagne comme ça un certain nombre de familles par des séances où ils sont accompagnés par des animateurs. Il y avait cet après-midi, même sur Oyonna, je pense qu'il y a, si jamais, des auditeurs qui vous écoutent, qui vont se reconnaître, et je les salue parce que c'est des gens très courageux qui sont dans ces démarches-là. On accueille surtout des familles qui sont en difficulté dans l'éducation de leurs enfants. Mmh. Et on essaye, à travers ce programme, de les accompagner pendant 16 semaines. C'est 2 heures par semaine. Et on essaye de leur faire effectivement, mais je vais reprendre des choses qui ont été dites par vos intervenants. intervenante, c'est-à-dire les encouragements, les félicitations, mmh. qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment c'est des choses absolument indispensables pour élever ses enfants, et que les sanctions ou c'est quelque chose qui ne peut arriver qu'après, et que souvent les choses qu'on doit faire, aux premières choses qu'on doit développer avec ses parents, souvent c'est qu'ils arrivent en disant mais nous il faut me donner des trucs pour qu'il arrête parce que c'est pas possible, et en déconstruisant et en repartant sur qu'est-ce que c'est que le jeu, quand est-ce qu'on joue, comment il faut jouer et que c'est important de jouer avec les petits et même avec des plus grands, comment il faut les encourager, comment on apprend à encourager, parce que on fait le constat nous que notre société française encourage très peu, on sait pas faire, on nous a jamais appris à le faire.
C'est très américain l'encouragement perpétuel.
Oui, c'est vrai. Il y a vraiment quelque chose de très fort à trouver autour de ça. Et ce qui est surprenant, c'est de voir les parents qui reviennent dès la deuxième semaine en disant bah, « Attendez, ça a marché, c'est bien. » Et ils sont très vite addicts de des propositions d'action qu'on met avec eux. Sachant que ce programme a aussi comme force, c'est que c'est vraiment un système collaboratif. C'est-à-dire que c'est les parents, c'est-à-dire que les animateurs ne sont absolument pas là pour donner des conseils. C'est les parents entre eux qui vont trouver des solutions et nous, on accompagne à trouver ces solutions selon une procédure très précise. Donc aujourd'hui, c'est l'association Le Prado qui développe ça sur la région et on a plusieurs autres choses aussi. C'est-à-dire qu'il y a des projets et c'est là où c'est intéressant. Enfin, je trouve très intéressant votre émission de ce soir parce qu'on travaille avec le CNRS de Toulouse sur une recherche qui va se mettre en place dès l'année prochaine sur auprès des enfants pour voir comment ce programme fonctionne et est-ce qu'il a autant de bénéfices qu'il semble le dire.
Merci
Donc, voilà.
beaucoup pour ce témoignage, François. Sophie Benkemoun, vous connaissez ce genre de programme, vous, par exemple ?
Parce que nous, c'est ce qu'on propose aussi. Alors, ça a l'air de vraiment ressembler à ce que cet auditeur vient de partager avec nous. Nous aussi, on donne pas de solution. C'est les parents qui vont trouver leur propre solution. On va les outiller pour communiquer. Les compliments, effectivement. Moi, j'ai habité aux États-Unis. Mes enfants, les grands, étaient scolarisés en école américaine. Donc, j'ai vu la différence avec ce qui se passe en France.
Wonderful! Amazing!
Yes. Et la problématique, c'est que là aussi, on va montrer aux parents la différence entre complimenter la personne ou complimenter ce qu'elle a fait.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut complimenter tout le temps,
non.
en fait? C'est-à-dire, voilà.
Monsieur Guinotte disait, il avait inventé le slogan avant l'heure, il disait, les compliments, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Ouais. C'est au bon moment. Vous voyez, ça date pas d'hier. Non. C'est au bon moment, au bon dosage, pour des choses précises. Il s'agit pas du matin au soir de complimenter, ce que font effectivement un peu trop les Américains, et ils complimentent plus la personne, tu es merveilleux, extraordinaire, etc. Ouais. Nous, on va dire, j'ai vu que tu as persévéré pour réviser ta leçon, ou pour construire ta tour de Capla. Ça y est, maintenant, elle est construite. Bravo.
Et même si c'est rien, en fait, c'est ça l'idée. Parce que moi, c'est ce qui m'a toujours fait rire avec les méthodes américaines. Par exemple, quand on a mis un dessin absolument mochissime, il est formidable ce dessin.
C'est alors bon. Que si on juste dit, bah, tu vois, t'as mis du bleu, du vert et du rouge, je vois qu'il y a des carrés, des ronds. On n'est pas obligé. Après, si l'enfant il dit, maman, tu le trouves beau, on peut dire, bah écoute, moi je préfère celui d'hier.
Alors voilà, on a le droit de dire qu'il n'est pas très beau, cet enfant sans bras, sans jambes, sans tête.
Exactement.
C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, je voudrais qu'on écoute Hicham, parce que c'est pas toujours simple pour tout le monde. Bonsoir Hicham.
Oui, bonsoir, merci d'avoir pris mon appel. Du coup, je vous remercie aussi pour le sujet de l'émission, parce que je suis particulièrement touché par le sujet.
Allez-y.
À cause de la difficulté qu'on vit avec ma femme depuis la naissance de nos deux enfants. En fait, c'est nos premiers, donc c'est des jumeaux. Et en fait, ça s'est bien passé au départ, hein, pendant les premières semaines, on va dire. Et très vite, en fait, l'un des deux enfants, Yad, en fait, il a eu beaucoup de problèmes de sommeil. Et pendant 4 mois, on n'a pas fait une nuit, ma femme. Donc, c'était très difficile. Et du coup, par manque de solution, parce qu'on a consulté, on a fait le tour de tous les médecins, etc. Il n'y avait pas de solution. Du coup, on était obligés, contraints et forcés, de les séparer. Et un des enfants a été récupéré par ma belle-mère pendant 4-5 mois. Et l'enfant qui est resté avec nous, Adam, au fait, il a évolué avec nous comme étant un enfant seul. Et à peu près à 10 mois, on les a rassemblés. Et à partir du moment où on les a rassemblés, en fait, je pense qu'il a fait une dépression. Hein. À 10 mois, on m'a dit que c'était possible. Hein, parce qu'il est devenu très violent. Il mordait, il frappait. Enfin, c'était devenu vraiment très, très difficile à gérer. Et au fait, il a traîné cette jalousie dévastatrice, que je qualifierais de dévastatrice, jusqu'à aujourd'hui. Ils ont à peu près 4 ans et demi aujourd'hui. Et au fait, ça déteint sur tout son comportement. Dès qu'il y a son frère qui est dans les parages, il se transforme complètement. Et lorsqu'il est tout seul avec nous, avec ma belle-mère ou avec ma mère à moi, au fait, c'est un petit ange, quoi. Mais dès qu'il y a son frère à côté, il se transforme, il devient très violent. il essaie vraiment de se faire remarquer par n'importe quel moyen, en général par des moyens peu orthodoxes, il casse des choses, il crie, il fait des bêtises, etc. On a cherché des solutions, on cherche toujours. À force de chercher, je me suis mis à la méditation avec lui, mais uniquement avec lui, hein. Il n'y a pas son frère, parce que dès que son frère est là, il s'intéresse plus à rien. Et au fait, ça déteint aussi son apprentissage, son comportement, etc., etc., etc. Donc, l'intensité a un petit peu baissé depuis qu'il a commencé à parler, parce qu'en plus, il avait des difficultés d'élocution, de parole, etc. Mais il traîne toujours cette jalousie, qui on n'arrive pas à s'en débarrasser, on ne trouve pas de solution.
Merci pour Hicham, finissez, vous aviez fini.
Si vous avez des pistes, si vous avez des conseils à donner, je suis preneur.
On a bien compris que vous étiez preneur et on voit bien la difficulté qui est la vôtre, Hicham, Béatrice Kamener. C'est tellement compliqué d'avoir des jumeaux quand ce sont les premiers. On ne sait pas très bien où on met les pieds, on essaye des choses, c'est ce qu'ont fait Hicham et sa femme. Évidemment qu'on peut rattraper des petits-enfants de 4 ans et demi, les remettre une fratrie dans sa ligne droite ou pas?
Ce dont témoignent ces personnes, voilà, vraiment une situation très difficile autour du sommeil. En tout cas, ça c'est vraiment la situation typique du parent. Alors en plus avec des jumeaux, moi ce que ça m'évoque très rapidement, c'est à quel point aujourd'hui on laisse des parents tout seuls parce qu'on considère que la famille c'est deux parents et les enfants. Et ils se retrouvent face à des nouveau-nés qui ne dorment pas du tout comme ils avaient prévu, qui ne mangent pas du tout comme ils avaient prévu. On oublie complètement que notre mode de reproduction, entre guillemets naturel si j'ose dire, c'est un mode où il y a tout un village qui élève un enfant. On laisse pas les parents tout seuls démunis. Donc voilà, moi c'est vraiment ce genre de choses que ça m'évoque, cette situation.
Est-ce qu'on peut donner une clé à Hicham, Sophie Benkemoun, pour lui donner un nouveau démarrage en quelque sorte?
Alors,
en fait, avec ses enfants?
Plusieurs choses. Des enfants qui font pas leur nuit à 4 mois, c'est absolument normal. C'est très fatigant pour les parents. C'est normal, ça veut pas dire qu'on ne peut rien faire. La jalousie, c'est aussi normal. Il faut comprendre que ces deux petits bonhommes ont été séparés. Donc, celui qui est resté avec papa et maman était le prince de papa et maman. Et puis, tout d'un coup, l'autre est revenu. Donc, finalement, il y a de quoi être en colère, il y a de quoi se sentir triste et avoir peur, à peur de ne pas être aimé autant. Et puis, la colère contre ses parents qui lui ont dit « tu étais mon petit prince ». Puis d'un coup, il y en a un autre qui est apparu dans le portrait, dans le paysage. Donc, tout ça, je vais dire, c'est des choses normales. Après, pour la jalousie, en fait, notre objectif en tant que parents, puisqu'on idéalise, on rêve notre famille avant, et c'est nécessaire aussi, parce que c'est ce qui va nous faire avancer. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on voudrait que tout le monde s'aime dans la famille, que les enfants s'aiment. Ça, c'est compliqué. Par contre, parce qu'on ne peut pas les obliger à s'aimer, parce que là, c'est frères et sœurs, c'est pas comme des parents vers leurs enfants. Le lien, il est plus transversal, il n'est pas vertical, si je puis dire. Par contre, on peut les obliger à se respecter. Mais on va leur apprendre comment on fait. Et ça veut dire que dans une famille, à partir du moment où un enfant a le droit de dire « j'aime pas mon frère, je ne suis pas content d'avoir un frère, j'étais mieux quand j'étais toute seule, tout seul, etc. » À la limite, ok. Par contre, toi, tu dois le respecter, c'est-à-dire dans cette famille, on ne tape pas, on frappe pas, on n'insulte pas. Sauf que là, ils sont très jeunes. Et à la naissance, le bébé est livré, si je puis dire, avec un kit de base qui lui permet de survivre, mordre, taper, etc. Et ça, si on ne leur apprend pas après comment ils peuvent exprimer leur colère, si on ne les autorise pas à dire « je ne suis pas content que mon frère soit là », ils vont continuer à mordre et à taper.
Mais ça veut dire que là, ils ont 4 ans et demi, donc ils ont la parole, donc c'est maintenant qu'on peut leur apprendre.
C'est maintenant qu'il faut leur apprendre. La main, c'est pas fait pour taper. Mais il faut aussi les autoriser à dire, et ça c'est difficile pour les parents. Et là je suis pas content que mon frère soit revenu.
Est-ce qu'il faut les mettre tous les deux là? Parce qu'on sent bien, Hicham nous raconte qu'ils font en sorte de faire des activités séparées, parce que sinon c'est infernal.
Il faut y aller, il faut les mettre ensemble, ces deux petits gamins.
Il faut qu'ils
fassent connaissance un petit peu, j'ai envie de dire. Il faut, je pense, petit à petit, puisqu'ils ont quand même été séparés, donc on part de ça, petit à petit leur apprendre à faire connaissance l'un l'autre, en leur donnant aussi les clés de communication, et en alors, les autorisant, si je puis dire, à exprimer les émotions du type, on m'a pris, j'étais tout seul. Et quand un enfant est tout seul, en général, il est beaucoup plus choyé. Et puis tout d'un coup, l'autre est revenu. Donc, il faut que je partage maman, il faut que je partage papa, il faut que je partage le temps dont eux s'occupent de moi, etc.
Est-ce que c'est plus compliqué de rétablir cette relation-là quand on a des jumeaux que des enfants qui ont 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans d'écart? Ou est-ce que finalement, c'est pareil?
C'est toujours rattrapable. Évidemment, là, c'est beaucoup plus fatigant, typiquement, parce que tout ce... Ils sont deux du même âge, donc deux à pas dormir, deux à... etc. Mais pour ce qui est de, du pratico-pratique, c'est pareil en fait. Hein, parce qu'il y a des fois des frères et sœurs qui ont, qui sont pas des jumeaux et qui ont quelques années de différence et qui peuvent vivre des situations de jalousie identiques.
Et voyez, Hélène sur franceinter.fr nous dit un peu la même chose, même si il n'y a pas de frères et sœurs, ou en tout cas pas encore. Mon enfant mord souvent, il tape où il pense, il est pourtant adorable la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on doit lui dire ou faire? Il a 21 mois.
C'est tout à fait normal à cet âge-là, voilà. Mais ça veut dire qu'il faut commencer à remplacer chez ces enfants-là, à leur apprendre comment ils peuvent s'exprimer quand ils sont en colère, quand ils sont tristes, etc., dans le respect des personnes.
Mais on peut lui dire à 21 mois, il comprendra, on ne tape pas.
Mais il faudra lui répéter. Le mode d'apprentissage, c'est la répétition. Et ça, c'est souvent épuisant pour les parents. Mais c'est comme ça, on répète, les enseignants le savent bien. Pour apprendre, il faut répéter. Et c'est parce que dans le cerveau, on est en train de creuser ces routes, comme ça, ces automatismes qui leur permettront après d'utiliser un autre moyen de communication.
Regardez, moi je répète le numéro de téléphone. Le téléphone sonne incessamment, 01 45 24 7000, et c'est Emmanuel qui est là depuis longtemps d'ailleurs. Bonsoir Emmanuel.
Oui, bonsoir France Inter, bonsoir mesdames. Merci pour votre émission. Alors voilà, moi je vous appelle parce que j'ai une question qui rejoint peut-être la préoccupation de beaucoup de parents. C'est le comportement à adopter face à la prééminence des écrans, à l'omniprésence des écrans. Quand on veut être parent bienveillant, c'est-à-dire essayer de ne pas crier, être dans l'éducation, la psychologie positive, on essaye de répondre avec patience, de répéter toujours dans la bienveillance, en essayant de garder son calme, qu'à un moment donné, il va falloir arrêter les jeux, arrêter de regarder son écran. Mais on sent bien qu'il y a comme une séduction, que la toute-puissance des écrans est plus forte que tout, et plus forte que l'autorité bienveillante des parents. Et là, on ne sait plus quel comportement adopter, en fait, en tant que parent. On n'a pas envie de crier, mais on sent bien que si on passe pas à la manière un petit peu plus forte, tout en gardant évidemment le respect vis-à-vis de l'enfant, on va peut-être pas se faire entendre. On se sent parfois un peu impuissant en fait face à cette presque hégémonie en fait.
Merci pour votre témoignage Emmanuel. Il y en a beaucoup évidemment des gens qui se posent ce genre de questions. À chaque fois qu'on fait des téléphones sonnent sur les écrans, les grands, les petits, les portables, les iPads et les ordinateurs, on se retrouve face au même genre de questionnement. Béatrice Caménère, un moment, il y a une éducation à l'écran à faire aussi, hein, au fond.
Ah oui,
d'écran, que passer 2 heures, passer 1 heure, passer 20 minutes, c'est fini.
Bien sûr, c'est une éducation. Et puis ils prennent exemple aussi sur la manière dont nous on se comporte face aux écrans, parce que quelque part on est quand même leur premier modèle par rapport à ça. Et puis finalement l'écran, ça dit quoi? Ça dit rien de plus que l'apprentissage de la frustration. Donc finalement si on enlève un écran à un enfant, c'est comme si on lui enlevait un paquet de bonbons. À un moment donné, ça va être difficile. Après, c'est le rôle du parent de le faire. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être un parent bienveillant et à un moment donné être capable de dire écoute, là c'est fini, on va l'arrêter, et par contre d'accompagner ce qui va se passer ensuite, parce que oui, après il va y avoir une crise de colère, il peut y avoir des sentiments vraiment pénibles à traverser, on est là pour ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il ne me semble pas du tout qu'il y ait d'incompatibilité. On est bien là pour garder le cadre de sécurité, c'est notre rôle de parent.
Voilà, il faut toujours garder, effectivement, savoir quel est son rôle, où est sa place. Brigitte, il y a quelqu'un qui s'appelle Brigitte Benkemoun, que je connais et que je l'embrasse, hein, d'ailleurs. Sophie Benkemoun, pardon.
Oui, tout à fait. Le problème de la télé par rapport aux bonbons, c'est que, on peut devenir addict aux bonbons. C'est vrai, ça existe. Ça peut par le sucre. Mais le problème, c'est qu'il y a ce côté, les écrans, par les ondes, ça s'explique par la physique, anesthésie les enfants. Il suffit de regarder même un bébé qui ne comprend pas ce qui se passe devant un écran, comme il reste anesthésié devant ces écrans. Avant 3 ans, on va éviter complètement vraiment les écrans. Les gens, on ne se rendent pas compte qu'ils ont l'impression que les enfants progressent, apprennent des choses. Oui, ils comptent jusqu'à 10. Alors, ils essaient de compter jusqu'à 10, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ne font que répéter. Parce qu'ils comptent jusqu'à 10, vous leur donnez 10 bonbons, vous lui dites 2 mois en 2, ils ne comprennent pas. Ça ne fait pas sens. Donc, l'écran n'apporte pas le sens, n'apporte pas la relation aux parents. Jouer avec un enfant, rien ne remplace ça. Jouer aussi, même si le parent n'est pas disponible, avec des cubes, avec tout ce tous les jouets qui apprennent, les jouets qui, les dinettes, etc. Pour, c'est comme ça qu'on explore, qu'on apprend même déjà les bases des mathématiques en empilant des cubes, etc.
Mais est-ce qu'on
on pose le cadre.
Mais est-ce qu'on peut en vouloir aux gens qui nous écoutent et qui de temps en temps, de guerre lasse, décident de mettre un écran devant le nez de leur enfant parce que subitement c'est le calme qui est là.
Nous, je sais.
Ou en voiture, plus personne ne hurle à l'arrière.
Alors, moi, je suis pas du tout contre les écrans à tout craint. Alors, sauf chez vraiment les tout petits. Après, effectivement, il y a la durée et puis il y a la qualité de ce qu'on regarde, dont il faut vraiment être attentif. Et puis, effectivement, on va poser le cadre, on va mettre des règles en place par rapport à cet usage. On va décider, si les enfants sont trop petits, on pourra mettre un timer. Quand le timer sonne, on éteint. Alors, on s'arrange pour que le timer ne sonne pas en plein milieu d'un dessin animé, bien sûr, parce que sinon, là, on est sûr que c'est, on part dans une crise. Et puis, au bout d'un moment, on peut donner des choix. Tu continues à regarder ton écran avec ce qui a été convenu, ou bien pendant un moment, tu ne regarderas plus ton écran. Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut tenir. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, derrière, après, c'est la frustration. Et c'est tout à fait ça. C'est la gestion d'une frustration comme une autre.
Et apprendre et la frustration, parent... c'est important, celui d'apprendre la frustration, comment
absolument.
On apprend à s'ennuyer,
absolument.
Comment on apprend tout ça.
Oui, absolument.
Bonsoir Sabrina.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Sabrina, on vous écoute.
Oui, alors j'entends beaucoup parler des tout-petits, mais bon, des fois, il s'arrive qu'on s'en sort pas trop mal, on a réussi à avoir un enfant un peu obéissant, bon, juste comme il faut, etc. Et puis, tout d'un coup, à l'adolescence, on le reconnaît plus. Un matin, on a un monstre adolescent qui nous parle mal, qui essaye de s'imposer comme futur adulte potentiellement, mais en fait, on reconnaît plus cet enfant-là qui nous l'a pris, ou est-ce qu'il a disparu. Et ça, c'est très compliqué aussi, parce que autant pour les tout-petits, on a beaucoup de livres, et puis voilà, autant pour les ados, c'est pas simple.
Merci beaucoup Sabrina, elle a raison Sabrina, Béatrice Caménère, tout se joue à 6 ans, à 5 ans, etc. Enfin, l'évolution, les cubes, les écrans, et quand il y a chose du 42 qui vous répond, comment on fait? Non mais sérieusement, enfin, c'est toujours une surprise pour les parents, on a l'impression en fait.
Moi j'aime beaucoup le concept de crise d'adolescence, parce que voilà, de plus en plus il y a des sociologues qui se disent finalement que peut-être la crise d'adolescence, en fait, c'est pas une crise de l'adolescent, mais c'est une crise des parents.
Absolument.
Voilà, exactement. Parce que finalement, Sabrina l'a bien dit, ils obéissent comme il faut quand ils sont petits, puis à un moment donné, ils obéissent pas. Donc finalement, c'est quoi? C'est l'affirmation d'une identité, c'est le désir de pas forcément être d'accord avec les parents. Et donc, moi, j'aime bien ce renversement d'idées, parce que finalement, ça nous questionne, nous, comment est-ce qu'on va interagir avec un presque adulte, avec un plus en plus adulte, et puis petit à petit, lui donner la place, et puis le renforcer aussi là-dedans. Donc finalement, ce conflit, moi je le vois super positivement parce qu'il est extrêmement constructeur pour l'enfant et aussi pour les parents.
Et Sophie Benkemoun, à quel âge ça commence? On a l'impression que désormais on est ado à 12 ans. Enfin,
oui, alors après,
j'ai l'impression que ma génération était ado très beaucoup plus tard.
Pour déterminer l'âge, ça dépend du point de vue où on se place. Est-ce qu'on se place d'un point de vue scientifique, un point de vue de parent, où effectivement on a l'impression que ça commence beaucoup plus tôt, alors qu'on se rend compte que tout ce qui touche à la puberté, etc., l'âge de démarrage a un peu baissé, mais après pas tant que ça, mais moi, nous on aime bien se baser par rapport à ce qui se passe dans le cerveau. Et effectivement, l'attitude typique des adolescents, moi je dis toujours en rigolant, si on me décrivait cette attitude et qu'on me disait la personne elle a 50 ans, je dirais faut consulter. Maintenant, si c'est entre 11 ans et 17-18 ans, c'est normal. Et maintenant on sait, en plus des hormones, qu'il se passe un tas de choses dans le cerveau, mais qui est assez fou. C'est-à-dire, c'est comme si tout ce qui était construit jusque-là se déconstruit un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression, des fois, que des enfants de 8 ans sont beaucoup plus raisonnables que des adolescents. C'est à cause de ce qui se passe dans le cerveau.
Donc, en fait, on peut rassurer les gens qui nous écoutent, ça s'arrête.
Ça s'arrête. Alors, le problème, c'est que le cerveau et la partie qui va les rendre raisonnables, c'est celle qui est mature en dernier, et c'est à peu près vers 25-26 ans. Donc, faut tenir bon quand on est parent. Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec Béatrice. C'est génial de pouvoir être en relation avec des ados.
Mais j'allais dire, c'est vraiment la dernière, ça veut dire qu'on cesse d'être parent à quel moment, en fait? Au fond, à quel moment il faut dire, bon bah ça y est, le last il est lâché? Alors bien sûr qu'on reste parent, mais à quel moment on se dit, ben je suis obligée de lâcher couler, maintenant c'est son histoire à lui, c'est plus la mienne?
Moi, alors évidemment, on reste parent toute la vie, mais je pense que ça doit être aussi, on doit pas passer de l'abandon, de je fais tout pour toi, à maintenant tu es grand et débrouille-toi. Hein, c'est vraiment des étapes, et on le sent quand on lâche petit à petit.
Voilà, voici ta valise, maintenant tu peux sortir. Merci beaucoup, merci à tous, merci de tous vos appels au téléphone, sonne comme d'habitude, et portez-vous bien.